RTN Info, Sonia Bernauer-Mia.
Bonsoir, journée de rêve pour la Suisse en Coupe du Monde de ski alpin. À Crans-Montana, Lara Gut-Bérami a remporté le Super G Dames, tandis que Beat Feutz a signé une deuxième victoire du week-end historique chez les hommes sur la descente de la Streif à Kitzbühel. Elle est l'une des pionnières du documentaire helvétique. Lucienne Lana est à l'honneur des journées de Soleure qui se tiennent en mode virtuel jusqu'à mercredi. Le FC La Chaux-de-Fonds est au repos forcé depuis fin octobre, comme toutes les équipes de Ligue inférieure de football. Les dirigeants poursuivent pourtant leurs efforts pour assainir les finances, tandis que l'entraîneur Alexandre Pepp tente de maintenir un esprit d'équipe. Changement de décor dans le ciel de la région, le soleil va céder sa place à la neige jusqu'en plaine. Le temps s'annonce tempétueux demain. Les Suisses ont brillé sur le cirque blanc aujourd'hui. Beat Feutz a signé un doublé historique en s'adjugeant les deux descents du week-end sur la Streif à Kitzbühel. Quant à Lara Gut-Bérami, elle a mis tout le monde d'accord sur la piste du Mont La Chaux. La Tessinoise s'est adjugée le Super G de Coupe du Monde de Crans-Montana avec près d'une seconde d'avance sur ses plus proches poursuivantes, l'Autrichienne Tamara Tippler et l'Italienne Federica Brignone. Malgré cette performance, Lara Gut-Bérami ne parle pas d'une course parfaite. Faites ses explications au micro d'Hugo da Custodia.
Je pense que c'était compliqué pour tout le monde d'interpréter cette manche parce qu'on avait aussi le feeling de hier où la neige était devenue beaucoup plus rapide. Il a neigé à nouveau encore, et puis Super G, tu ne traces pas sur la ligne de la descente. Donc on avait à nouveau de la neige un peu plus souple et en regardant la télé, on voyait que c'était aussi beaucoup plus lent. Et donc c'était un peu un mix entre comprendre comment interpréter, si resserrer les virages, être agressif et tout ça. Donc c'était beaucoup plus simple de ce qu'on imaginait. Aussi dernier mur, si j'ai réfléchi, ben, je remonterais, je pense que j'écrirais beaucoup plus direct. Mais ça nous arrive souvent ça, Super G. Sauf Saint-Anton, je pense que chaque fois à l'arrivée on dit bon c'était beaucoup plus simple, j'aurais pu risquer beaucoup plus.
Lara Gut-Bérami le dit, elle aurait pu prendre davantage de risques, mais sur un tracé piégeux, de nombreuses coureuses sont parties à la faute. Dans ces conditions, il fallait donc trouver le bon dosage. Troisième du jour à 1,02 seconde de la Tessinoise, l'Italienne Federica Brignone ne pouvait que s'incliner devant la manche de Lara Gut-Bérami.
Ouais, Lara, elle est bien, surtout dans ce Super G où il faut savoir toujours où tu es, où il y a des bosses qui font un peu peur, voilà. À mon avis, elle, sur ces conditions, c'est la meilleure skieuse en Super G. Elle interprète vraiment bien tout ça, ça lui vient naturel, mais elle est vraiment bien sur ça et c'est une magnifique athlète. C'est pour ça qu'elle a gagné. C'est celle en activité qui a la plus victoire en Coupe du Monde, donc je pense qu'elle mérite tout ça. Et aujourd'hui, elle a tout bien fait et elle a réussi, où j'ai pas lâché, à vraiment tendre les lignes. Elle a vraiment fait un run parfait.
Une course parfaite qui permet à Lara Gut-Bérami de conforter sa place de leader au classement de Super G. Une nouvelle fois, le résultat d'ensemble est très bon pour l'équipe de Suisse. Priska Nufer est 6e, Corinne Souter 9e, Johanna Ellen 11e et la fribourgeoise Noémie Colli 12e. Et puis chez les hommes, Beat Feutz a donc signé un doublé sur la mythique Streif. Comme vendredi, le skieur bernois a été le plus fort lors de la seconde descente de Kitzbühel ce matin. Il a devancé le français Johan Claret de 17 centièmes et l'autrichien Mathias Mayer de 38 centièmes pour cueillir son 12e succès dans la discipline et son 50e podium sur le cirque blanc. En retard sur le haut du parcours, le Bernois a été très rapide sur le bas, cela grâce à une traverse bien négociée où il est parvenu à rester haut sur la piste. Beat Feutz.
Das war sicher ein Mitgrund, ja, also das war eigentlich mehr oder weniger der einzige Fehler am Freitag.
Oui, c'est sûrement une des raisons. C'est plus ou moins la seule erreur que j'ai faite vendredi. Je suis arrivé trop serré dans la traverse et ça m'a déporté vers le bas. Heureusement pour moi, j'ai pu ensuite voir Max Franz qui a une trajectoire à peu près semblable et il n'a pas réussi à attraper la porte. Moi, j'ai réussi, mais je savais que ce serait à nouveau limite. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que je devais mettre plus de direction pour avoir la possibilité de sortir avec plus de vitesse.
Des propos traduits par Leonard Reichen, un seul autre Suisse a pris place dans le top 15. Il s'agit de Marco Odermatt qui a réalisé le meilleur résultat de sa carrière en descente en prenant le 10e rang. La Suisse doit recourir à plus large échelle aux tests rapides de détection du coronavirus. Le Conseil fédéral a mis cette proposition en consultation en s'appuyant sur le modèle des grisons. L'objectif est d'amener les cantons à effectuer régulièrement des tests dans les EMS, les écoles et les entreprises, selon le Sonntagsblick. Cette stratégie pourrait permettre de sortir de la spirale du confinement. Et il faut renforcer les contrôles aux frontières. C'est l'appel lancé par 6 présidents de partis au Conseil fédéral. Pour ce groupe de politiciens de tous bords, l'entrée en Suisse doit passer par des tests et des quarantaines, même pour les résidents du pays. Toute personne désirant entrer en Suisse devrait présenter un test PCR valable et se soumettre à une quarantaine de 5 jours. Une prise de position qui intervient alors que le taux de reproduction du virus augmente à nouveau. Il atteignait une valeur de 0,89 le 14 janvier contre 0,79 deux jours auparavant. Et de leur côté, les États-Unis ont officiellement passé aujourd'hui le cap des 25 millions de cas de Covid-19 recensés depuis le début de la pandémie. C'est l'un des grands rendez-vous du cinéma suisse. Les journées de Soleure battent leur plein jusqu'à mercredi, mais dans un format virtuel. Cette année, plus de 200 films sont proposés en ligne au public. Un hommage particulier est rendu aux pionnières du documentaire suisse. Parmi elles figure Lucienne Lana, cinéaste établie à Grandval dans le Jura bernois. À 83 ans, elle se réjouit de cette reconnaissance, même tardive. Elle se souvient qu'il n'a pas été simple au début pour une femme de se faire une place dans le monde du cinéma. Lucienne Lana.
Alors le milieu ne nous a jamais accepté, mais quand on est très décidé et puis persuasif comme moi, et enfin qu'on bataille à mort, ben, on faisait ces trucs qui passent ou qui ne passent pas, qu'ils soient acceptés ou pas, on a continué à faire. Et puis c'est peut-être ça qu'il faut dire à toute jeune femme qui veut faire du cinéma ou autre chose dans l'art, l'essentiel c'est de continuer, de croire à ce qu'on fait soi-même, et à la longue on se rend compte que les autres voient ça et ils y croient aussi. Donc il fallait beaucoup d'années pour qu'on y croie, à mon art par exemple.
Et aujourd'hui du coup la situation a évolué, c'est quand même beaucoup plus ouvert.
Ah oui, alors heureusement que maintenant les jeunes femmes, elles ont quand même beaucoup plus de possibilités. Puis avec toutes ces statistiques de genre qui ont été faites, il a été prouvé que la Confédération n'a pas fait son boulot au départ. Hein. Alors ils rattrapent un petit peu maintenant, ils essayent comme ils peuvent. Hein.
Lucienne Lana au micro d'Olivier Tsano. La cinéaste présente 2 films à l'occasion des journées de Soleure qui s'achèveront donc mercredi. Elle a également participé à plusieurs discussions retransmises en ligne. Vol insolite dans le Jura. Un individu s'est emparé d'une statue installée à l'entrée du collège de Delémont hier en début de soirée. L'auteur du délit a rapidement été interpellé. Le Kremlin accuse les États-Unis d'ingérence dans les affaires intérieures de la Russie. La représentation diplomatique américaine a communiqué à 2 reprises sur les manifestations de soutien à Alexei Navalny. Des manifestations qui se sont soldées par l'arrestation de plus de 3500 personnes selon un nouveau bilan. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues à travers le pays hier pour réclamer la libération de l'opposant. En Chine, 11 mineurs ont pu revoir la lumière du jour. Les secours sont parvenus à les ramener à la surface, ceux qui étaient coincés à plusieurs centaines de mètres sous terre après une explosion survenue le 10 janvier. 10 autres mineurs sont toujours bloqués et les secours tentent encore de les localiser. Les autorités australiennes tentent, elles, d'obtenir des Pays-Bas l'extradition d'un baron de la drogue en Asie. Cet homme de 57 ans serait l'un des individus les plus recherchés au monde. Traqué depuis des années, il a été arrêté vendredi par la police néerlandaise. Il est le chef présumé de l'immense cartel asiatique connu sous le nom de Sam Gore, un important producteur et fournisseur sur le plan mondial de méthamphétamine. Et pour l'anecdote nature, sachez que le martinet à ventre blanc est l'espèce la plus rapide pour migrer. La station ornithologique suisse s'est penchée sur la question dans le cadre d'une étude. Les martinets à ventre blanc mettent seulement 1 semaine pour parcourir plusieurs milliers de kilomètres. Les ornithologues ont également découvert le parcours exact de ces migrateurs. Livio Rey, chargé de presse de la station ornithologique suisse, fait le point sur la méthode utilisée.
On a utilisé des géolocalisateurs et c'est des résultats de 215 oiseaux de 4 pays, de Suisse, Espagne, Bulgarie et Turquie. Et ces géolocalisateurs, c'est important à dire, c'est pas des GPS. Le géolocalisateur, il mesure l'intensité du rayonnement solaire et l'heure pendant une année. Et après le retour de l'oiseau migrateur, on reprend le géolocalisateur. Alors, on n'est pas live, disons, mais ça prend une année. Et seulement, on peut voir ce que l'oiseau a fait l'année dernière, mais pas live comme avec le GPS. Le martinet à ventre blanc est un excellent cas pour une étude avec les géolocalisateurs. Parce qu'il est assez grand pour mettre un géolocalisateur. Après, il est fidèle à son lieu de reproduction et il niche souvent dans des bâtiments ou même dans des nichoirs, ce qui permet de récupérer les appareils facilement.
Un sujet proposé par Lydiane Gena.
Sport.
Et à 18h10, il est largement l'heure de parler sport avec vous, Léonard Reichen. Bonsoir.
Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. Et après les bonnes nouvelles du ski alpin développées en début de journal, le ski cross suisse, lui, n'est pas en reste. Fanny Smith entre dans l'histoire. Elle a remporté son 27e succès en carrière en Coupe du Monde à Idrefjell en Suède. La Vaudoise compte ainsi une victoire de plus que l'ex-recordwoman Ophélie David. Avec cette victoire, Fanny Smith a remporté sa 4e victoire en 7 courses cette saison chez les hommes. Ryan Reges et Jonas Lehner ont pris les 2e et 3e places. En handball, les Suisses ont bouclé leurs mondiaux par une victoire. Ils ont battu 27-24 l'Algérie dans le cadre de leur 3e match du tour principal. L'équipe de l'entraîneur Michael Souter termine à la 4e place de son groupe du tour principal, ce qui lui vaut un classement dans la première moitié dans le top 16. Du hockey sur glace en National League, Bienne a battu Ambry 4-3, Zurich a dominé Fribourg 5-0, victoire de Lugano 1-0 face à Rapperswil. La rencontre entre Langnau et Genève Servette a été reportée en raison de la mise en quarantaine préventive des Aigles. En football, on jouait en Super League cet après-midi, Young Boys a été tenu en échec sur le terrain de Vaduz, 0 partout, Lugano a battu Saint-Gall 1-0. Et puis du football dans la région, le FC La Chaux-de-Fonds ronge toujours son frein. Depuis le mois d'octobre, le club de Première Ligue est au repos forcé en raison des restrictions liées au Covid-19. Le championnat est interrompu, 11e de ce classement gelé avec 3 victoires, 5 défaites et 1 nul. La formation jaune et bleue ne sait pas si elle reprendra le chemin des terrains au printemps. En attendant, le travail en coulisses continue avec des nouvelles plutôt encourageantes sur le plan financier. Sadri Ben Brahim, vice-président du FC La Chaux-de-Fonds.
On continue de développer la structure sponsoring du club avec un certain succès, puisque les gens continuent de nous faire confiance et faire confiance à l'équipe qui est en place. Maintenant, c'est clair que le peu de visibilité et le marasme économique actuel ralentit quelque peu les choses et nous permet pas d'entrevoir de nouvelles dates, en tout cas pour ce qui concerne ce repas de soutien. Donc c'est vrai que c'est des rentrées d'argent qui ne viennent pas tout de suite ou qui sont reportées et ça peut poser quelques problèmes.
Au niveau finance, où en est le remboursement de la dette du club ?
Bah écoutez, il reste toujours une dette d'un certain montant, un peu plus de 100 000 francs. On a des accords avec l'immense majorité des créanciers. Donc on continue d'assainir le club comme on l'a commencé il y a un peu plus de 2 ans, avec l'espoir d'arriver au bout dans les années qui viennent, ça c'est certain. Maintenant, c'est vrai que cette crise ralentit un petit peu tout le processus qui avait été mis en place.
Et l'incertitude est aussi de mise du côté du staff technique. L'entraîneur tente de rester en contact avec ses joueurs. Alexandre Pep.
C'est vrai que c'est une situation qui est forcément très compliquée. Ça fait aujourd'hui quasiment 3 mois que le contingent est à l'arrêt au niveau des entraînements collectifs. C'est une situation qui est très compliquée. Ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'on n'a pas d'issue. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. Ça peut encore enlever un petit peu plus de motivation au niveau des joueurs, parce que quand on sait qu'on a une date de reprise, forcément on est plus attentif, on est plus motivé, et là on est dans le flou total. Donc c'est une période qui est assez compliquée, donc on reste en contact par téléphone, par visio, par WhatsApp. Les joueurs ont un programme d'entretien physique. C'est pas du tout la même chose que se retrouver au stade, de vivre une ambiance de groupe, de s'entraîner collectivement et jouer au football tout simplement, quoi.
Le FC La Chaux-de-Fonds et les clubs de Première Ligue espèrent une potentielle reprise du championnat en mars. Du côté de la météo, il fallait profiter du soleil pour ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, la neige, elle va faire son retour jusqu'en plaine. Ce soir, entre 1 et 5 cm de poudreuse pourrait tomber sur le littoral. La couche de neige sera un peu plus épaisse dans les montagnes où il pourrait neiger 10 à 20 cm sur les crêtes jurassiennes. Le temps s'annonce instable demain avec des nuages, des giboulées et de nouvelles chutes de neige en hauteur. Quelques coups de tonnerre pourraient même s'inviter dans le paysage. Côté température, il fera entre moins 4 et 1 degré au petit matin. L'après-midi, le mercure oscillera entre moins 3 et 2 degrés. La journée de mardi se placera sous le signe du soleil avant un retour des nuages en soirée.